Voilà, alors je suis un tout petit peu décalée parce qu'on parle de la rentrée et moi je veux parler du repos. Alors voilà, j'aimerais que vous puissiez rester vraiment dans ce que vous avez reçu aussi pendant ce temps de vacances, ceux qui sont allés en vacances, ceux qui ne sont pas allés en vacances, vous avez quand même pris peut-être des temps de repos. Mais ce qui me paraissait tellement important en fait, c'est de rester dans cet espace de vie. On a vu dans la louange, on peut vivre cet espace de vie. On se regonfle de cet espace de vie parce qu'on se tourne vers le Seigneur. Et je crois vraiment que le repos, c'est une chose vraiment que le Seigneur nous a donnée. On dit en fait qu'Israël, la plus grande des choses qu'ils nous ont données, c'est le jour du repos. Et vraiment, je crois vraiment qu'on peut tout vivre à travers le repos. Alors c'est ça que j'aimerais vous exhorter en fait dans ce temps de prédication, c'est de continuer à être dans le repos, même que vous avez le nez dans le guidon. Je m'excuse, je n'ai pas trouvé d'expression plus châtiée pour le dire, mais ça me paraissait le nez dans le guidon. Le nez, voilà. Voilà, donc c'était juste pour dire vraiment cette importance vraiment de se remplir de ce repos de Dieu. Et ce repos de Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des personnes qui le portent, des personnes particulières qui ont déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu. Elles ont une certaine sérénité, une certaine paix qu'elles dégagent. Et pourquoi elles le dégagent? C'est parce qu'elles ont vécu beaucoup de choses et que la vie les a formées et que la relation avec Dieu les a formées. Et pour moi, c'était vraiment de se dire, il y a des personnes et il y a des lieux. Il y a quelques jours, on était chez des amis pour un repas et de voir cette rivière toute calme autour de nous me disait, mais c'est vraiment un lieu de repos. Et puis, il y a le temps aussi de s'arrêter, de contempler. Mon beau-fils, dimanche, qui prêchait, disait, mais vraiment, quand on voit la diversité de la nature, c'est une vraie source de repos. Et Dieu aurait pu faire la nature, mais vraiment moche, alors qu'il a fait vraiment tellement de diversité, tellement de beauté, que simplement c'est pour que nous puissions vivre de ce repos dans toutes les situations. Alors bien sûr, je n'en suis pas restée au repos, parce que j'aurais pu vous parler pendant des heures du repos, puisqu'on sort de temps de vacances, mais je voulais aussi vous parler que dans l'épreuve, on peut continuer à vivre ce repos. Et que même dans l'épreuve, on peut continuer à vivre ce repos, et même dans la marche, on marche, on n'est pas avec dans le parti politique de Macron, mais on marche, on peut continuer à vivre ce repos. Et c'est cela que j'aimerais vraiment partager avec vous. Je me suis appuyée sur deux textes dans la Bible. J'en lirai un par la suite, mais c'est l'histoire d'Élie. Élie, il a vécu des choses extraordinaires, hein, des choses merveilleuses, où vraiment il a vu Dieu agir. Et après, il est parti dans un temps où il avait besoin de repos. Et Dieu vraiment l'a relevé avec beaucoup d'amour. Et la quintessence du repos, elle ne se trouvait pas dans le bruit, elle ne se trouvait pas dans la force, elle se trouvait dans un soupir, dans un murmure, dans un bruit doux et léger. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous exhorter, même si quand on est jeune, on aimerait aller vite, et puis il faudrait que tout se passe, tac, 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 tac. Mais avec le temps, on s'aperçoit que le repos, c'est une chose importante. Alors certains me diront, mais tu sais, le repos, c'est déjà loin, et puis voilà, on a déjà repris, et puis c'est difficile et tout ça. Mais pourtant, on voit en fait tout au travers de ces textes, tout au travers de cette Bible, l'importance du repos. Le repos de Dieu, qu'est-ce que c'est? On voit Élie qui en fait, dans un temps de difficulté, de dépression, après un temps très fort, va reprendre des forces, va se nourrir. Dieu va le nourrir. Dieu veut nous nourrir. Dieu veut nous donner vraiment des nouvelles forces. Mais pour cela, il faut se mettre aussi à l'écoute. Il faut chercher la présence de Dieu. On voit aussi que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des temps difficiles et des temps de repos. Et j'ai pensé aussi tout particulièrement, je m'excuse, je saute peut-être du coq à l'âne, mais David aussi. David, quand on voit dans ses psaumes, on voit qu'il a vécu des choses extrêmement difficiles. Et en même temps, à la fin de ce psaume, ces psaumes, il y a toujours une parole de repos. Et c'est cela que j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre, cela. Peut-être, Daniel, est-ce que tu pourrais lire juste le 1 Chronique 22:9 ? C'est une prière pour nos enfants, que nos enfants puissent être des enfants de repos, comme Salomon.
Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom et j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël pendant sa vie.
Voilà, un homme de repos, être un homme de repos, être une femme de repos, être un enfant de repos. Porter ce repos aussi, c'est dans cette connexion avec Dieu qu'on va trouver vraiment du repos. Et j'en ai trouvé un que j'ai trouvé pas trop en vogue, c'est dans les Proverbes qui dit « Châtie ton fils et il te donnera du repos ». Alors je me suis dit, si on disait ça aujourd'hui, on nous dirait « Ouh là là, là vous êtes vraiment à côté » et tout ça. Mais c'est pas simplement de taper, c'est pas simplement de châtier, c'est de reprendre, c'est d'accompagner, c'est d'éduquer. C'est ça pour avoir du repos. Aussi une autre chose, placez-vous sur les chemins. Et quand on prend du repos, placez-vous sur les chemins et regardez quelle est la bonne voie. Et vous trouverez le repos de vos âmes. S'arrêter pour calculer, s'arrêter pour regarder autour de soi, s'arrêter pour choisir, se reposer dans l'activité intense. C'est vraiment important de prendre du repos. Et même Jésus, qui était un homme hyperactif, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais qui était vraiment quelqu'un qui a touché beaucoup de monde, qui a été un homme médiatique, qui a été vraiment un homme qui a apporté beaucoup de choses au monde, et ben il disait à ses disciples, « Venez avec moi, nous allons nous retirer dans un endroit isolé pour être tranquille. Il vous faut prendre du repos. » Et ben cette notion de repos, elle doit être, je crois, pas seulement pendant les vacances, mais elle doit être aussi tout au long de notre vie, savoir s'arrêter, savoir prendre du temps avec Dieu, savoir se tourner vers Dieu, savoir entrer dans un temps de louange qui nous régénère, qui nous redonne des forces, qui nous encourage à continuer. Après un temps chargé de travail, après un temps chargé de difficultés, savoir s'arrêter, savoir poser aussi ses émotions. On le voit avec Élie, après un temps où il a eu besoin de toute son énergie, eh ben, il y a un temps où la fatigue se fait sentir, où les difficultés sont là, où les questions viennent très fort. Et je crois que là, il faut s'arrêter quand ces choses-là arrivent. Il faut s'arrêter. Mais aussi, il ne faut pas rester seul par rapport à tout ça. C'est vrai de prendre du temps seul, c'est bien, mais prendre du temps aussi pour partager les choses. J'aimerais lire deux textes qui est ce fameux peuple qui va partir d'Égypte, qui va traverser la mer Rouge. Qui va avoir là un miracle extraordinaire avec en fait cette mer Rouge qui va s'ouvrir et le pharaon qui va être englouti. Mais il y a un temps difficile pour ce peuple, c'est se retrouver dans le désert. Et j'aimerais lire 2-3 passages justement sur ce temps difficile pour ce peuple, ce temps où les épreuves... où ils ont vécu des épreuves et où il va falloir marcher, où il va falloir continuer. Dans Exode 15, 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Et 16, 1 à 6. Donc, je vais lire tout un trait. Exode 15, 22 à 27, Exode 16, 1 à 6, et puis après je reviendrai un tout petit peu en arrière pour qu'on comprenne mieux la situation. Moïse fit partir, je ne sais pas si vous avez tous trouvé ceux qui cherchent, je ne vais pas vous stresser puisque c'est un temps de repos. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Voilà déjà une partie de l'histoire de ce peuple et je vais encore lire 2 versets dans Exode 1, 13 à 17. C'est juste pour reprendre la situation qu'ils étaient quand ils étaient en Égypte. Alors ici, il semble que tout paraît bien, ils avaient à manger à satiété, ils avaient de la viande, enfin c'était fantastique, extraordinaire en Égypte. Mais vous verrez que dans ce début de ce texte, vous verrez vraiment que la situation n'est pas aussi extraordinaire qu'elle paraît une fois qu'ils sont en route. Alors, donc, Exode, chapitre 1, versets 13 à 17. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent l'Éternel et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Donc là, on voit une situation compliquée, une situation difficile. Et on est touché par ce peuple qui se met en marche et en même temps qui vit des choses difficiles dans sa marche, qui a une mémoire un peu oublieuse de tout ce qui a été vécu, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui murmure, qui vit, qui se dit « mais on va mourir dans ces déserts » et qui doit apprendre la confiance dans la marche. Apprendre la confiance dans la marche. Et je crois que ça, c'est vraiment une chose hyper importante. Il semble qu'ils avaient de la viande en abondance. En tout cas, c'est ce qui est dit. Parfois, comme je disais, notre mémoire se méprend sur les réalités du vécu. Et c'est ce qui se passe. Et les eaux amères de Mara. Ils arrivent dans un endroit, il y a de l'eau, mais cette eau, elle est amère. Est-ce que nous, parfois, dans nos vies, on n'a pas de l'amertume? Est-ce que nous, parfois, on n'est pas amer de vivre les situations qu'on a vécues? Et vraiment, je crois que le Seigneur veut changer nos amertumes. Il veut toucher l'amertume. Là, on le voit, Moïse le fait, il prend du bois et paf, il jette dans l'eau et l'eau devient douce. Mais ça, c'est vraiment l'intervention de Dieu dans nos vies qui peut changer nos amertumes. Et souvent, des fois, nous, quand on est dans le ministère, on se dit « ah, ben quand même, nous aussi, des fois, on regimbe contre Dieu. » On dit des choses et puis après, on se dit « mais t'es complètement à côté. » Finalement, il faut vraiment que tu changes ta manière de voir, que tu acceptes de vivre les choses différemment, que tu acceptes de te mettre d'un autre angle pour voir les choses. Changeons notre regard. Acceptons de changer notre regard. Apportons ces choses. Apportons-les pour que ça change, pour que nos vies changent. Apportons-les à Dieu. N'ayons pas peur de lui remettre nos vies. N'ayons pas peur de lui remettre notre amertume. De toute façon, il connaît tout. Mais ce qu'il veut, il veut changer les choses dans nos vies. On voit que Jésus a vécu aussi des épreuves. Et on pourrait lire le Luc 22, 28. Angéline, peut-être, tu peux me lire.
Alors, vous êtes resté fidèlement avec moi au cours de mes épreuves.
Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici d'important? En fait, Jésus, il reconnaît l'importance d'avoir des personnes autour de nous, de ne pas être seul face aux épreuves. Et je crois que souvent, en fait, on se renferme sur notre coquille, on retourne dans notre coquille d'escargot, puis on se terre chez nous. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Mais non, je crois que là, on voit Jésus, il a été reconnaissant qu'il ait des accompagnateurs dans les difficultés qu'il a passées. Même Jésus. Alors, si Jésus avait du monde autour de lui, d'autant plus nous. Matthias, acte 20, 19. Merci. Donc là aussi, on voit vraiment Paul qui parle, qui s'ouvre par rapport à ces difficultés qu'il a vécues. Elle ne reste pas comme à l'intérieur de lui, mais au contraire, il en parle. Annie, 2 Corinthiens 2, 9. Attitude dans les épreuves, quelle attitude? C'est 2 Corinthiens 2, 9. Oh, excusez, oui, c'est bien, mais... C'est bien, on a le temps, on est dans le repos. De Corinthiens 2, 9. Chapitre 2, verset 9. Alors là, il y a une notion d'épreuve pour obéir, pour voir si, en fait, mettre à l'épreuve, pour savoir, en fait, quelle direction on va prendre. Comment est-ce qu'on va vivre, en fait, ces temps d'épreuve? Est-ce qu'on va se refermer sur nous? Est-ce qu'on va vivre dans l'amertume et puis se refermer, ou si on va vraiment s'ouvrir? Alain, Galates 4,14.
Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus.
Voilà. L'épreuve, quand on aime quelqu'un, on accepte la différence. On accepte son handicap. On l'entoure dans ce qu'il est vraiment. Philippiens 2,22. Je crois que c'est... Oui, Justine.
Mais vous savez que Timothée a fait ses épreuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile.
Merci. Donc là, une épreuve, c'est la difficulté de propager l'Évangile, de parler de Dieu. Ce n'est pas facile d'être des témoins de Dieu dans ce monde. Voilà, et Jacques 1,3. Si tu veux.
Les frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Voilà. Donc, savoir que les épreuves, les difficultés de nos vies, elles ne servent pas à rien. Elles nous forment. Hein, elles nous font avancer, elles nous font changer. Et parfois, à travers les épreuves, on apprend beaucoup. Mais ça dépend aussi de notre attitude. Comment est-ce qu'on va vivre nos épreuves? L'épreuve, par exemple, éprouve notre foi. Hein, l'épreuve vient et nous touche et nous fait grandir. Et nous pouvons grandir vraiment en se laissant toucher de plein fouet parfois. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple et qu'il y a beaucoup de choses à résoudre dans l'épreuve. Marchons. Et puis, on voit dans l'histoire d'Élie et l'histoire du peuple aussi d'Israël qu'ils se remettent en route. Qu'une fois une épreuve passée, un temps difficile, ils se remettent en route. Et qu'il y a des temps vraiment de repos. Ou ce qui sont simplement gratuites, je dirais gratuites, des temps vraiment pour eux de repos. Et c'est intéressant de voir que Élie, il va se faire nourrir deux fois par les corbeaux. Bon, ça c'est vraiment du miracle, comme on dit. Et ensuite, il va se remettre en route 40 jours et 40 nuits avec cette nourriture, avec cette nouvelle force, avec la force qui lui a été donnée par Dieu. Dans nos vies, ce qui est important, c'est de garder ce cœur de passion. Je disais au début, c'est cet espace. Cet espace entre les choses. Cet espace, c'est Dieu dans nos vies qui nous met un espace entre nous et les situations, qui nous permet de vivre les situations autrement. On voit aussi ce peuple d'Israël qui se laisse changer par les épreuves et le voyage. On les voit aussi quand ils arrivent dans un endroit fantastique à Élim, qui est un lieu plein de palmiers et plein de sources. Ça, c'est la nature, c'est ces temps de repos particuliers qui nous sont donnés aussi pour continuer quand on en a besoin. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de vivre ces temps d'épreuve avec de l'espace, comme je dirais, pas l'amener dans le guidon, et vivre vraiment aussi des temps de repos, des temps où on se retrouve, où on se ressource, où on voit la merveille de la création. Quand on regarde là les petites fleurs et toutes ces choses, on voit vraiment qu'il y a une diversité extraordinaire de la nature, de la vie. Et vraiment, il faut qu'on reste avec cette merveilleuse communion aussi avec ces choses qui sont là, mais communion avec Dieu, bien sûr, mais la nature nous montre les merveilles de Dieu. Et puis, il faut revisiter nos vies en proximité avec Dieu. On voit en fait qu'il faut laisser tomber en fait le, je sais pas si vous voyez, mais quand on marche, en tout cas moi je sais que quand je marche dans la nature, tout d'un coup je regarde mes chaussures et il y a plein de boue qui sont attachées à mes chaussures. Et vraiment, il faut laisser tomber cette boue de mara dans nos vies. Il faut laisser vraiment tomber cette amertume. Il faut l'apporter avec un frère, avec une sœur, parce que des fois de nous-mêmes c'est trop compliqué. Pas être seul dans les épreuves. Accepter le changement de nos mentalités, touchées par l'action de l'Esprit. Jésus est le Père. Sachons vraiment dans nos vies nous arrêter. Sachons faire le point. Sachons nous arrêter pour choisir la suite. Vivons ce temps, les temps de repos dans la confiance. Et puis, j'avais encore trouvé un texte extraordinaire aussi qui sera juste avant hein, trois mots de conclusion, la fin de ce temps, mais c'est dans 1 Pierre 1, 6, 7, 8 qui est « Réjouissez-vous ». Je l'ai lu dans une transcription, donc ça change un tout petit peu la manière dont c'est dit, mais je trouvais tellement que c'était dans cet esprit-là qu'il faut qu'on avance. « Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, et à cause de lui, vous êtes transformés, transportés de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. C'est 1 Pierre, chapitre 1, versets 6, 7, 8. Mais je trouvais tellement fort de cette connexion que Dieu veut, en fait, proche, de proximité, qui nous donne la joie, qui change nos manières de voir. Résumons en trois mots notre cheminement de ce matin. Un jour de repos, le jour de repos, un temps pour s'arrêter, réfléchir, contempler, se reposer, reprendre des forces. Les épreuves, ne pas s'enfermer, apporter notre amertume pour que Dieu la change, en acceptation ou en autre chose. Reprendre la marche en ayant cette distance ensemencée par Dieu. Il renouvelle nos forces. Joie de pouvoir se réjouir, de pouvoir changer nos manières de voir. Joie qui est donnée aussi par le cheminement. Traverser des temps difficiles, traverser des oasis et recevoir cette joie que le Christ veut nous donner à chacun. J'aimerais prier. Seigneur, mon cœur, c'est qu'on puisse vraiment rester dans cette proximité avec toi, dans le repos, comme dans les épreuves, comme dans la marche. Merci Seigneur de venir renouveler mes frères et sœurs dans leur marche, dans le début de peut-être de cette année scolaire pour certains, pour le début pour de reprendre après les vacances pour d'autres. Merci Seigneur de rétablir en nous cette communion, cette connexion forte avec toi pour continuer, pour être rempli de cette eau vive qui est ta source. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire chez mes frères et sœurs, parce que toi Seigneur tu es vivant, toi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour cette espérance, pour cet espace que tu nous donnes dans nos vies. Amen.
Merci Catherine. Une des clés pour vivre ce repos, on l'a vu avec ce que nous a partagé Catherine, c'est de délivrer de l'insatisfaction. Et on est au temps de Sainte-Seine maintenant, ce sommet du culte où on veut vivre une expérience de rencontre, de consécration, de renouvellement de notre foi par cette nourriture que Dieu veut nous donner. Et je vous invite vraiment à vivre, à demander cette délivrance de l'insatisfaction perpétuelle dans laquelle nos vies nous poussent. On n'a jamais assez, on n'est jamais à la hauteur, on n'a jamais le dernier truc qu'il nous faudrait. On n'est pas au top de la pub physiquement, psychiquement, matériellement, etc. Et on voit vraiment combien ce peuple dans le désert, en Égypte, avait vraiment le quoi de rouspéter, de ne pas être content et d'être pénible, ça d'accord. Mais après ils sont délivrés, l'eau elle n'est pas bonne. Après il manque de la viande. Après ils ont de la viande, ils en ont trop, ils en sont dégoûtés. On ne va pas leur jeter la pierre, hein. C'est nos vies, l'insatisfaction. Je voulais vous partager, j'avais pensé raconter cette petite histoire qui, je trouvais, illustre bien le besoin de, que notre être profond soit changé en tant qu'être humain comme on est naturellement. C'est l'histoire de la maman de Stephenson. Je ne sais pas si vous connaissez Stephenson, c'est celui qui a inventé la locomotive à vapeur. Et on raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, mais en tout cas la parabole est belle, que la maman de Stephenson était là le jour du premier essai de la première locomotive à vapeur. Et puis son fils lui a expliqué à sa maman ce qu'il avait inventé, c'est une grosse machine, vous imaginez, vous n'avez jamais vu un train à vapeur, vous n'avez jamais imaginé avec les pistons, vous n'y comprenez rien, tout ça, avec l'eau qui chauffe, tout ça, comment cet immense train de plusieurs tonnes va pouvoir avancer comme ça, c'est de la folie, quoi. Et puis là sur le quai, il y a tout le monde qui sont là, on va voir si ça va marcher, il y a peut-être les autorités, il y a peut-être la famille, il y a peut-être tous ceux qui ont travaillé au projet qui ne savent pas si ça va démarrer ou pas. Et la maman de Stephenson, elle a regardé cette grosse locomotive à vapeur, tout ça, quand ils préparaient tout ça, elle a dit, ça ne va jamais démarrer. Et puis voilà, qu'une heure ou deux après, tout doucement, avec le bruit, la vapeur et tout ça, tout doucement, là ça crie, ça grince, et voilà que cette locomotive démarre. Et là, on dit que la maman de Stephenson a dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est tellement vrai de notre nature humaine. Combien de fois dans nos vies, on dit, ça ne va jamais aller. Et puis après, on dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Eh bien, chers amis, la Sainte Cène, le repas du Seigneur, c'est pour dire, oui, ça peut démarrer. Et puis oui aussi, ça ne va jamais s'arrêter. Ça, c'est super. Oui, la maman de Stephenson, on lui donne tort sur un point, oui, ça va démarrer, mais elle avait raison sur l'autre. Et plus que pour la locomotive à vapeur, notre vie chrétienne, ça ne va jamais s'arrêter. Ça met peut-être du temps à se mettre en route. Peut-être qu'il y a des grincements, il faut huiler, que des fois c'est dur, des fois il y aura des tunnels. Mais ça ne va jamais s'arrêter. Parce que c'est ça le symbole du pain et du vin. C'est juste un avant-goût du royaume. Si on prend ce matin, c'est pas faire un acte religieux comme ça, pour un petit peu de pain, un petit peu de truc, bien comme ça, non. C'est juste de dire ça, c'est l'apéritif, c'est l'avant-goût. Les fêtes éternelles pour ceux qui ouvrent leur vie à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Ça fait des beaux sourires, hein? Extraordinaire, vous vous rendez compte? On prend ça, on a la foi ce matin, qu'ils peuvent prendre ce repas, prendre ce pain, ce vin. C'est pour dire, je veux plonger en Christ, en Dieu créateur, quand je vois les fleurs, quand je vois la nature. Je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, je ne peux même pas vous prouver l'existence de Dieu, mais je choisis d'y livrer ma vie au créateur. Je n'ai pas besoin d'autre chose que le miracle de la création quand je vois ça, dire celui qui a fait tout ça, peu importe comment ça s'est fait, celui qui a fait tout ça, cette force qu'elle a derrière, eh bien, je veux livrer ma vie à ça. Et ça n'aura jamais de fin. Alors, est-ce que ça va être la méthode Coué? Tous les matins, je veux dire, Dieu existe, Dieu existe. Je donne ma vie, je donne ma vie, je donne ma vie. Il a pardonné mes péchés, je vais vivre éternellement, je vais vivre éternellement. C'est une possibilité, la méthode Coué. Mais je vous en propose une autre. Et j'aimerais lire avec vous, pour ce temps de Sainte-Seine, un petit dialogue entre Jésus et Nicodème. Et pour moi, c'est la clé du repos. Et c'est la clé pour que nos mentalités de « j'y arriverai jamais »,« ça finira jamais »,« ça s'arrêtera pas », »,« je serai toujours à côté, etc., pour que ça court-circuite et que je sois délivré de moi-même. Pour être vraiment vrai, pour être vraiment moi, parce que c'est la mode aujourd'hui, hein, faut soyez vous. Et bien, si vous voulez vraiment être vous, si je veux vraiment être je, la seule manière, c'est de me livrer, de m'abandonner dans le repos au Créateur, en Jésus-Christ. Et Jésus et Nicodème qui est un grand sage juif, hein, qui pose des bonnes questions. Dans ce dialogue, vous avez la clé pour être dans le repos et pour être délivré de vous-même, pour être délivré du moi qui nous enferme, délivré des prisons et pour commencer les noces éternelles. Je te le déclare, lui dit Jésus, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. S'il n'y a pas ce changement, ce bouleversement, ce retournement complètement, cette conversion intérieure, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous pouvez rester assis sur votre siège, attendre toutes les preuves que Dieu existe, que tout attend mieux dans vos vies. Vous pouvez prier à genoux jusqu'au Mont Saint-Michel, c'est le premier endroit qui me vient. Rien va se passer. Par contre, restez là, vous ouvrir simplement. Dieu vient me changer, vient me transformer. Naître par l'Esprit. On ne peut pas voir le royaume de Dieu autrement, ce n'est pas possible. Puis Nicodème, qui n'est pas fou, hein, il dit, mais attends, comment un homme déjà mature, qui vit sa vie, comment il pourrait être naître de nouveau? Est-ce qu'on peut naître une seconde fois? Il peut comme pas retourner dans le ventre de sa mère, dit Nicodème. Jésus lui répond, et ça écoutez bien mes amis, si on veut le repos, c'est ça. Je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de l'Esprit. S'il ne naît pas de l'Esprit d'en haut, d'eau et d'Esprit. Et là, il dit une phrase extraordinaire qu'il nous faut bien comprendre en prenant ce pain et ce vin. Ce qui est né d'un père humain est humain, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Tellement simple. Pas compliqué l'évangile. N'importe qui peut le comprendre. Si tu es né humainement, t'as un papa, t'as une maman, t'es né sur la terre, t'es né pour la terre. Mais si tu veux naître du ciel, si tu veux naître de l'éternité, il faut le souffle de l'éternité. Donc ce matin, en partageant ce pain et ce vin, nous sommes invités à être délivrés de nous-mêmes en naissant de l'éternité, en naissant de l'esprit. On est tous là, hein, vous pouvez vous pincer votre voisin, il est bien là. Voilà, c'est bon, quelques-uns l'ont fait. On est né de la chair, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on est né de l'esprit? Ça c'est plus dur à pincer l'esprit du voisin et savoir s'il est né de l'esprit, ça c'est plus compliqué. Mais interrogeons-nous. Et on est né pour le temps sur la terre, c'est bon tous. Mais est-ce qu'on est né pour l'éternité? C'est comme important. Hein? Et ça, c'est pas par des preuves scientifiques, c'est pas par un raisonnement, c'est même pas par des efforts religieux. C'est juste s'ouvrir à cet esprit de Dieu qui vient nous sauver, qui vient nous transformer, qui vient nous visiter. Et ça, c'est le repos. Amen. Je vous invite à vous lever.